journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission Vous avez la parole sur Africa, vous le savez, chaque jour hein, dans le JDA, du lundi au vendredi, vous pouvez commenter l'actualité, nous faire part de vos analyses, de votre regard sur l'information. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous parlons des élections législatives en Guinée-Bissau. Elles se sont déroulées dimanche. Alors ces élections hein, permettront-elles de mettre un terme à la crise politique qui dure depuis 4 ans, Guinée-Bissau, une crise née des divisions au sein du parti historique, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, dont est issu le président José Mario Bas. Alors, pour en parler, nous serons par téléphone depuis Lisbonne avec Marcelina Montero. Elle est tête de liste pour l'Europe du PRS et le Parti pour la rénovation sociale. Pour participer à l'émission, posez vos questions à notre invité, nous faire part de vos commentaires. Composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous nous écoutez depuis partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00 pour intervenir. Avant cela, comme de tradition, un tour du côté du répondeur d'Africa pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour moi Stéphanie. Bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1. En fait, j'appelle pour intervenir par rapport à l'émission de M. Phil sur Terre concernant Marseille-PSG, parce que je ne peux pas appeler ça un classico, parce qu'il n'y a pas de classico en France depuis, je crois, 8 ans maintenant. Donc, j'en profite pour dire aussi qu'il ne faut pas confondre les chèvres avec des footballeurs. Voilà, il ne faut pas confondre les chèvres avec des footballeurs. Donc, le classico, c'est Marseille Olympique de Lyon. Déjà, qu'ils apprennent à jouer déjà avec les Mitroglou, là, avec Lyon, et essayer de finir déjà quatrième du championnat avant de parler du PSG. Merci, au revoir.
Ami du JDA, bonjour. Je voudrais répondre au monsieur qui est intervenu sur Africa numéro 1, au JDA. Qui posait trois questions sur Monsieur Nicolas Maduro, le président du Venezuela. Eh bien, cher monsieur, j'ai bien approuvé votre naïveté. Vous qui pensez que qui avait déjà défini Monsieur Maduro par un dictateur, j'aime bien ça. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y a encore beaucoup de dictateurs qui sont là avant Maduro. Je dis bien avant Maduro, qui ont fait des coups d'État, qui n'ont pas été élus. Mais les Occidentaux ne le chassent pas du pouvoir, ne lui disent pas tu as fait un coup d'État. Essayez d'analyser objectivement et n'ayez pas une mémoire courte. Juan Guaido, c'est Juan Guaido là, il est président de l'Assemblée. Cette élection dont il est issu a été organisée aussi par le pouvoir de M. Maduro. Pourquoi lui il serait légitime et M. Maduro ne le serait pas? Bon alors, monsieur, cher candidat monsieur, encore plus de réflexions pour vous. Salut.
Oui, amis auditeurs, bonjour. Jomo Debeng. Alors, nous avons appris hier avec stupéfaction la démission ou le renoncement du président Bouteflika pour briguer un cinquième mandat en Algérie. Merci, monsieur le président Bouteflika. Oh, donc, vous êtes vraiment malade, monsieur le président, si vous l'avez reconnu vous-même. Merci au peuple algérien. Mais au peuple algérien, je dirais de ne pas baisser les bras, parce que les élections ont été annulées, parce que je pense qu'il n'y a pas de bon candidat, d'après ce que je viens d'entendre par cette démission du président Bouteflika. Peuple algérien, debout comme un seul homme, l'Afrique est avec vous. Merci beaucoup et Dieu m'en débeigne. Merci à vous.
Bonjour amis des JDA, c'est M. Djabi. Je vais parler aujourd'hui vraiment de félicitations des peuples algériens qui ont été d'une, qui ont été soutiens de l'un et l'autre. Voilà le peuple quand il décidera, aucun président ne fassera le peuple. Parce que quand le peuple divisé, le peuple divisera le président et restera en pouvoir. Voilà tous les dictateurs qui restent chez nous parce que le peuple ne décideront pas. Parce que si vous faites du bien, l'autre ils font du mal. Vous faites du bien, l'autre ils font du mal. Voilà aujourd'hui, je félicite vraiment des peuples algériens qui étaient d'une, qui a soutenu l'un et l'autre, qui a décidé que le peuple a décidera le présent, il a laissera son mandat, il a décidé de laisser. Parce qu'ils savent que s'il ne laissera pas, le sang coulera, il est obligé de laisser. Quand on dit généraux, c'est faux. C'est nous, les peuples, qui décideront de dire que le président devait continuer, ne devait pas continuer. Voilà la division en Afrique qui ne sert à rien. Voilà aujourd'hui, les peuples algériens, ils ont montré à nous les autres qu'est-ce qu'on devait faire maintenant. Voilà les peuples, vous avez qu'à regarder. Merci bien, amis des Indiens, c'est M. Djabi.
Bonjour, Africa numéro 1, bonjour à toute l'Afrique. Comme quoi, j'écoute beaucoup Africa numéro 1, c'est de la bouche de M. Lalupo que j'ai entendu cette bonne nouvelle, la libération de M. Bouteflika, qui était otage de ses proches, de ses geôliers, qui voulaient monter un funeste projet sur sa vie. Alors, voilà, ce monsieur est libéré. Je pense qu'il a libéré aussi le peuple algérien de cette annonce, même si elle ne vient peut-être pas forcément de lui. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Ce monsieur-là rentre dans l'histoire africaine au moins, et par la grande porte, contrairement à beaucoup de nos présidents d'Afrique noire. Et voilà, je souhaite à l'Algérie un très bon futur, plein de bonnes choses pour ce pays-là. Voilà, ils ont participé à cet avancement de l'Afrique. C'est un pas pour eux et c'est une grande avancée pour nous, amoureux de l'Afrique. Voilà, bravo aux Algériens, bravo Monsieur Bouteflika, que Dieu vous donne longue vie et qu'il vous permette de pouvoir voir le résultat de vos décisions et qu'il vous préserve de votre pays de prédateurs intérieurs comme extérieurs. Voilà, c'était Brice. Bonne chance à l'Algérie et bravo.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Nous parlerons demain dans le journal des auditeurs de la situation en Algérie. Aujourd'hui, on parle de la Guinée-Bissau. Vous pouvez intervenir en direct en composant le 01 55 07 58 00. Nous parlons donc des élections législatives en Guinée-Bissau après 4 ans d'une crise politique commencée en 2015. Ces élections doivent permettre de dégager une nouvelle majorité, de nommer un premier ministre face aux divisions au sein du parti historique, le PAIGC. C'est le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert d'Amilcar Cabral, le Parti de la Rénovation Sociale, le PRS, peut-il remporter la mise? Nous en parlons tout de suite avec Marcelina Montero, elle est tête de liste pour l'Europe justement du PRS. Marcelina Montero, bonjour.
Bonjour Africa numéro 1, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Merci d'être en ligne avec nous depuis Lisbonne, c'est au Portugal. Tout d'abord, première question, Marcelina Montero. Ces élections législatives ont été marquées. Ah, ça a coupé. Voilà. Donc, on n'aura pas de première question. J'espère que Sonia m'entend pour qu'elle rappelle. Je suis pas sûre. C'est bon, elle m'a fait signe. On va rappeler tout de suite, Marcelina Montero. Je le disais, j'allais lui poser la question. Ces élections législatives ont été marquées par une forte mobilisation dans les bureaux, initialement attendu dans les 48 heures, la proclamation des résultats par la Commission nationale des élections, c'est la CNE, devait avoir lieu dans les 48 heures. Elle aura lieu finalement ce mercredi. Alors, voilà, j'ai un problème, c'est notre invité est en train de m'appeler sur le téléphone, c'est compliqué. Il y a 102 sièges à pourvoir à l'Assemblée et le pays traverse une crise depuis 2015, depuis le limogeage du Premier ministre Domingo Chimoesh Pereira, issu lui-même du PAIGC, par le président José Mario Bas, lui-même membre du PAIGC. Alors, si le PAIGC remporte la mise, va-t-on vers la persistance de la crise politique en Guinée-Bissau? On va écouter Thierno qui nous écoute depuis, lui, la Guinée-Conakry. Bonjour Thierno.
Oui, bonjour, chère Stéphanie Hartmann, et bonjour à l'ensemble, amis, je l'étais aux autres de Judéa.
Bonjour Thierno. Alors, je vous suivais cette actualité, j'imagine, Bissau-guinéenne. Pensez-vous que ces élections vont mettre un terme enfin à la crise
Oui, tout à fait. La République de Guinée-Bissau, c'est un pays frère très proche de la République de Guinée. C'est un pays frère là où résident beaucoup de nos compatriotes. Nous avons vraiment suivi les campagnes électorales, vraiment très civilisées. C'est ce qui me permet de dire que cette fois-ci, les intellectuels et la jeunesse bissau-guinéenne ont ensemble décidé de tourner la page, parce qu'il fallait attendre, que la jeunesse prenne leur destin en main. La liste des PAIGC ou bien la liste qui est amenée par l'ancien Premier ministre général Ambala Sissoko, de Modem TAP 15, donc D5. Ce sont des personnalités intellectuelles qui ont vraiment vécu dans les grandes pays très civilisés, là où il y a des avancées démocratiques, et aussi qui ont eu à faire des jetés de haut niveau dans les grandes universités. Vraiment, je suis convaincu cette fois-ci, les Bissau-Guinéens arriveront à tourner cette phase de la pagaille institutionnelle dans leur pays, parce que depuis l'immosage du Premier ministre, donc depuis les pagailles ont vraiment...
C'est la pagaille régulièrement en Guinée-Bissau, hein, puisqu'aucun président n'a terminé son mandat depuis 1974. Avant de retrouver notre invité, Tierno, quel regard vous portez sur ce parti historique, le PAIGC, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert? C'est le parti qui a mené la libération en Guinée-Bissau en 1974. Est-ce que ce parti est en train de s'épuiser finalement?
Bon, pour moi, ce parti, vraiment, c'est un parti qui a mené pour l'indépendance. C'est un parti qui est à l'image de l'ANC de l'Afrique du Sud. C'est un parti qui a beaucoup d'admiration pour la jeunesse. Mais, par quelques temps, il y a eu des élites, des cadres de ce parti, qui a semé des pagailles au sein de cette partie. C'est ce qui a fait vraiment chuter certains cadres qui sont partis, créer leur propre parti. Mais à présent,
c'est la liste dont vous parlez tout à l'heure, le MADEM, c'est ça, les dissidents du PAIGC. Merci Tierno, restez à l'écoute si vous voulez, comme vous connaissez bien la situation en Guinée-Bissau, on reviendra vous voir, vous reprendre dans quelques instants, mais on accueille de nouveau Marcelina Montero, rebonjour.
Oui, Stéphanie, bonjour, désolée pour ces petits incidents techniques.
Ça arrive, voilà. C'est les joies du direct.
Voilà, ce que j'ai à dire pour le parti que j'ai l'honneur de représenter à cette élection législative,
oui,
qui est le parti de rénovation sociale.
Oui.
La campagne a été difficile, mais bonne, dans une ambiance de fraternité et de convivialité.
D'accord. Est-ce que je peux vous poser une question, Marcelina, quand même?
Allez-y.
Oui, j'allais vous demander, je le disais, ces législatives ont été marquées par une forte mobilisation. Comment vous, justement, au PRS, vous interprétez cette mobilisation?
Je dirais pas qu'il y a une forte mobilisation, parce que si on compare ces élections législatives de 2019 à celles de 2014, le recensement électoral a été fait de manière très sélective. Du coup, on a un taux d'abstention énorme, aussi bien en Guinée-Bissau que dans la diaspora que je représente. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans l'ensemble, les élections se sont déroulées sans conflit majeur ou bagarre. Dans la circonscription électorale qui est la diaspora Europe, j'ai pu rencontrer des Bissau-Guinéens de la diaspora et m'enquérir de leur situation. Nous, nous déplorons simplement le manque de transparence lors des recensements électoraux qui ont eu lieu en France, enfin en Europe, tout comme à l'intérieur du pays. Il y a eu, figurez-vous, Stéphanie, des urnes qui ne sont jamais arrivées à destination. Il y a eu des listes électorales qui ont été inversées, ne laissant aucune possibilité aux électeurs de parcourir des kilomètres à la recherche de bureaux de vote. Ça a été catastrophique. Mais il faut rappeler que ces élections se sont déroulées dans des conditions de crise sociopolitique, comme vous disiez à l'instant, grave, que traverse le pays et qui a affecté la diaspora bissau-guinéenne. Cela se fait sentir par cette mobilisation faible que je dis. Et ce taux d'abstention qui est énorme, en raison de la perte simplement de confiance dans les politiques qui ont été, qui ont gouverné le pays pendant très longtemps. On parle de 46 ans d'instabilité chronique, où le PAIGC est à la tête de tout cela.
On entend bien que vous dénoncez finalement, Marcelina Montero, on entend bien que vous dénoncez quand même les conditions du scrutin, vous avez dénoncé les questions d'urne et aussi de fichiers électoraux. Est-ce à dire que le PRS pourrait être prêt à contester le résultat des élections?
J'ai envoyé tous les résultats que j'ai obtenus en Europe. Moi, j'étais moi-même parcourir tous les bureaux de vote le jour du scrutin et j'ai constaté des irrégularités. On m'a fait remonter des irrégularités venant de partout en Europe. Donc, c'est vraiment pas digne de ce que je fais après un scrutin électoral, surtout pour la...
Donc, les irrégularités, qu'on soit bien clair, Marcelina Montero, que vous avez relevées, sont-elles en mesure de discréditer ce scrutin?
Ce qui est évident, c'est qu'on nous a annoncé en Guinée-Bissau avant que je vienne en Europe pour faire ma campagne. On m'a dit qu'il n'y avait pas de recensement électoral qui ait été fait en Allemagne, en Suisse ou bien simplement en Hollande. J'arrive ici, on me dit que finalement il y a 3 urnes qui ont été envoyées dans ces 3 pays-là. Je n'avais personne du PRS qui pouvait être dans les lieux pour vraiment suivre le déroulement des élections. Donc ça, c'est déjà un hic quelque part. En dehors de cela, je suis au Portugal en ce moment. J'ai parcouru les bureaux de vote et j'ai vu effectivement le manque de transparence. Dans tous les bureaux de vote, il n'y avait que des personnels du PAIGC, de la tête, c'est-à-dire le président de la de table, comme son secrétaire, comme son vice, c'est que des personnels du PAIGC. Il n'y a aucun autre parti qui était vraiment dans ces bureaux de vote. Ça montrait déjà une ambiance du PAIGC qui arrive sûre d'elle-même, que le recensement était favorable au PAIGC, et ça, ce n'est pas démocratique. Mais néanmoins, moi, ce qui est positif, ce que je retiens de tout cela, je n'ai pas encore les résultats, on les aura demain, mais ce que je retiens de cela, c'est vraiment la diaspora que je veux faire respecter à travers mon programme. Parce que effectivement, la diaspora n'a pas été respectée, n'a jamais été respectée. C'est la première fois de l'histoire de la Guinée-Bissau qu'une femme ait été désignée comme tête de liste en Europe. Donc, c'est à saluer le PRS, qui est un parti démocratique, un parti qui vraiment donne la possibilité aux femmes de pouvoir se présenter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui me rassure, c'est que partout où je suis passée, les Bissau-Guinéens, aussi bien en France, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, ils m'ont dit qu'ils en avaient marre du PAIGC.
On va en parler, Marcelina Montero, du PAIGC dans quelques instants, dont vous êtes issue, je dirais aux auditeurs tout à l'heure. Avant ça, peut-être une question, parce que vous parlez du PRS, hein, justement. Donc les résultats, il y a 102 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. On attend les résultats pour demain, selon la secrétaire exécutive adjointe de la Commission nationale des élections, Félix Berta Vasmoura. Quelles sont les ambitions du PRS, Marcelina Montero? Sur 102 sièges, vous en voulez combien?
Non, il est évident qu'au moment où je vous parle, aucun parti n'a la majorité absolue. C'est-à-dire qu'on perfile vers de nouveaux problèmes. Aucun parti, que ce soit le PRS que je représente.
Mais vous espérez avoir combien de sièges, par exemple, Marcelina?
Ben écoutez, étant donné déjà que le recensement a été fait par le PAIGC et ses éléments de manière sélective, il est évident, moi, ce que j'ai vécu en Europe... si c'est la même chose en Guinée-Bissau, on ne pourra pas dépasser les 30 députés à l'Assemblée nationale. D'accord. Mais néanmoins, de toute manière, qu'on ne dépasse pas les 30 députés ou pas, il est évident que le PAIGC ne pourra même pas avoir sa majorité absolue, malgré les fraudes qui ont été faites de manière grossière pour diriger. Donc, on va évoluer forcément vers une Assemblée nationale avec 3 partis peut-être qui auront le poids.
Donc,
il va falloir faire des coalitions.
Alors, justement, Marcelina Montero, le PRS est-il prêt à faire des coalitions si nécessaire? Avec quelle liste? Avec quel parti?
Au moment où je vous parle, je ne suis pas le président du PRS. Moi, je suis au Portugal, je rentre demain. Mais il est évident que le PRS est un parti démocrate. Il va consulter notre commission, les teneurs du parti ainsi que les militants. On va leur remettre cette question-là. C'est aux militants de décider ce qu'on va faire, avec qui on va le faire. Mais ça, ce sera décidé aujourd'hui, de toute manière.
C'est très clair. D'ailleurs, hein, s'il y a des Bissau-Guinéens de France, hein, de la diaspora qui nous écoutent, hein, puisque vous avez fait un long hommage à la diaspora, Marcelina Montero, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler au 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00. 00 justement, on le disait, hein, Marcelina Montero, le pays traverse depuis 2015... longue crise depuis le limogeage du Premier ministre Ndoubingo Shimoes Pereira, issu du PAIGC, par le président lui-même membre du PAIGC. Est-ce que vous craignez que si le PAIGC arrive à dégager une majorité, on se retrouve vers un nouveau bras de fer entre le parti et le président, Marcelina Montero?
Le PAIGC est un parti qui est contesté. J'ai pu le constater tout au long de mon périple en Europe. De la même manière, il l'est aussi au niveau de la Guinée-Bissau. dans son ensemble.
Pourquoi il est contesté? Parce qu'on le rappelle, hein, c'est le parti historique qui a gagné la bataille pour l'indépendance. Vous avez longtemps été membre du PAIGC. Vous l'avez quitté parce qu'il avait du mal à se renouveler, c'est ça? C'est un parti vieillissant.
Le PAIGC est un parti évidemment historique. Mmh. Personne ne peut le contester. Le PAIGC est un, de Anita Cabral est un grand parti. Mais malheureusement, on a une direction récente de 2014 qui est la direction du PAIGC actuel qui a divisé le parti, qui a expulsé des ténors du parti, ceux qui viennent d'enfants de lutte de libération nationale. Donc le PAIGC d'aujourd'hui, nous ne nous reconnaissons pas en elle parce que tout simplement, nous avons des gens qui ne vivent pas le parti comme nous l'avons vécu. Vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a donné le tout pour le PAIGC en France, parce que je suis originaire de France. J'ai été appelée en 2014, après le scrutin, par le président de la République pour aller défendre la voix de la diaspora au sein de l'État. Donc, je suis dans cette fonction-là. C'est une logique pour moi aujourd'hui que le PRS fait appel à moi pour que je sois sa tête de liste pour justement la diaspora, parce qu'il y a tout un travail qui a été fait. Mais malheureusement, nous avons un PAIGC avec son président de parti qui est dans le népotisme, qui est dans...
Le président du PAIGC, c'est Domingo Simoes Pereira, on est d'accord, Marcelina,
oui, je parle
ancien
de
Premier ministre.
Domingo Simoes Pereira, oui, bien sûr, pour qui j'ai été sa directrice de campagne en pilotant le département communication marketing Europe en 2014. Oui, on parle bien de ce monsieur-là. Donc, il a divisé le pays, il a divisé les militants du PAIGC. Il continue encore à vouloir diviser le pays. Et nous, nous ne sommes plus en mesure de l'accepter parce que, de toute manière, d'après les premiers résultats qui sont arrivés, il n'a pas la majorité absolue. Tant décrié, tant crié, tant voulu. Tout a été mis en place pour que cette majorité absolue arrive pour le PAIGC, mais le peuple a dit le contraire. Donc, il faut respecter la voix du peuple, il faut respecter la volonté du peuple. Et c'est pour ça que tout le monde, ceux qui ont pu, en tout cas, ont pu aller voter pour justement contester, montrer leurs droits, ce droit dont ils ont été privés.
Alors, je vous lis quelques messages. Hein. Donc, Thierno, qu'on a entendu tout à l'heure, hein, nous disait sur Facebook, vu les campagnes électorales très civilisées, les candidats qui sont dans les différentes listes du Modem G15A et du PAIGC, à mon avis, la Guinée-Bissau vient de tourner la page sombre de la pagaille qui a mis au chaos les institutions républicaines. Et Kabiloté El Kabilo lui répond le président Vasse hein, est conscient que les narcotrafiquants profitent du chaos. La dernière saisie de centaines de kilos de cocaïne prouve que les mêmes narcotrafiquants sont à l'intérieur des institutions. Tant que tout se passe dans la transparence, il n'y aura pas de crise post-électorale, nous dit Kabiloté sur facebook.com/journal des auditeurs. Justement, hein, Marcelina, comme disait Kabiloté, hein, quelques 800 kilos de cocaïne ont été saisies hein, dans un camion immatriculé au Sénégal. Hein. C'est la saisie de drogue la plus importante depuis au moins 12 ans. La Guinée-Bissau était qualifiée de narco-État hein, aux environs des années 2013. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est la place du trafic de drogue dans la vie politique, Marcelina Montero, en Guinée-Bissau?
Concernant cette prise de 800 kg de stupéfiants, je ne peux me prononcer sur cette question, surtout quand on parle d'un pays frère qui est le Sénégal. La drogue, il s'agit de quelque chose, un fléau mondial. Heureusement, cette prise a été maîtrisée. Il faut féliciter le travail remarquable que la police a pu faire à ce niveau-là. D'autant plus qu'on parle d'une période de campagne électorale et de carnaval en Guinée-Bissau. Donc, moi, je peux simplement féliciter ce travail remarquable de la part de la police. Maintenant, nous, nous sommes bissau-guinéens, nous n'avons rien à dire de la politique sénégalaise.
Non, mais alors, Marcelina Montero, pardon, ne faites pas semblant de comprendre ma question. Des responsables militaires hein, bissau-guinéens, je crois que c'était en 2013, hein, ont été arrêtés par les États-Unis pour trafic de drogue. On sait la place aussi du trafic de drogue dans la vie politique bissau-guinéenne. Je vous demandais quelle en était aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des hommes politiques bissau-guinéens qui ont des liens avec des trafiquants de drogue?
Moi, je pense que la Guinée-Bissau est le pays le plus sûr qui soit dans la sous-région. Malheureusement, nous avons des enfants de la Guinée-Bissau qui ont le plaisir d'aller dénigrer l'image de la Guinée-Bissau dans les autres pays voisins. Notamment, je parle de du président du parti PAIGC qui crie sur tous les toits à qui veut l'entendre que la Guinée-Bissau est un pays narcotrafique. Je dis le contraire. J'y vis depuis 2 ans. je vois des gens qui aiment leur pays, des gens qui sont beaucoup plus démocrates que ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Mmh. Il faut faire attention. La drogue.
Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Hein. Vous pouvez trouver un article sur Le Point qui date de 2018 intitulé « La menace de la narco-influence place toujours » où il y a des témoignages de gens qui font du transport de drogue en Guinée-Bissau, Marcelina Montero.
Mais est-ce que la drogue est beaucoup plus présente qu'en Guinée-Bissau qu'ailleurs autour de nous?
Au Sénégal, vous voulez dire par exemple?
Non, mais j'en sais rien, mais est-ce que la drogue est plus présente en Guinée-Bissau que dans tous les pays de la sous-région? Ou même dans l'Europe? Il y a des pays pour qui, effectivement, on parle de drogue, on le crie sur tous les toits, mais il y en a d'autres qui ne disent rien, mais qui jouent de cela, et qui vivent de cela. Soyons quand même réalistes.
On a compris votre réponse, Marcelina.
Je refuse cet état de narcotrafic pour la Guinée-Bissau. On n'est pas un pays narcotrafique.
C'est très clair. 01 55 07 58 00, c'est le numéro si vous voulez intervenir. Il nous reste quelques minutes. Marcelina, on va redonner la parole à Thierno, qui avait entamé cette émission et qui semble bien connaître la Guinée-Bissau. Thierno, vous êtes convaincu quand vous entendez Marcelina Montero qui nous dit finalement, la Guinée-Bissau n'est pas un narco-État? Ah, Thierno est parti. Je pense qu'il a laissé le téléphone. Il s'est dit, tiens, j'écoute. Je ne sais pas si quelqu'un nous entend. Une fois, deux fois, trois fois, Thierno. Bon, Thierno est parti, on ne l'entend plus. Ce n'est pas grave. On va peut-être essayer d'écouter un auditeur que Sonia va nous envoyer rapidement. Ou je repose ma dernière question à Marcelina, au hasard. Bon, je n'ai pas d'auditeur, on finira avec lui. Marcelina, j'avais une dernière question.
Je voulais simplement dire, allez-y. Fanny, il est important de rappeler pourquoi on est dans cette crise aujourd'hui. Hein, la crise sociale s'est aggravée ces dernières années en raison de l'attitude du président du PSGC et son entourage.
Ah, vous l'avez bien dit, Marcelina Montero,
le gouvernement, ne serait-ce que par ne serait-ce que parce qu'ils ne font pas partie de ces mouvements, d'un gouvernement. Donc les élections ne mettront pas fin à cette crise, il faut le savoir, au niveau du Parlement, puisqu'au moment où je vous parle, aucun parti n'a la majorité absolue pour gouverner.
Alors justement, ma dernière question, ça aurait été celle-ci, Marcelina Montero, depuis l'indépendance 1974, aucun président n'a terminé son mandat en Guinée-Bissau. Est-ce que José Mario Bas sera le premier président à terminer son mandat en Guinée-Bissau, selon vous?
Et je le dis avec toute la conviction qui est la mienne. Grâce à ce président de la République, nous n'avons pas eu de massacre. Grâce à José Mario Bas, nous n'avons pas eu de violence au niveau auquel les gens voulaient amener certaines manifestations. Donc, c'est le premier président de la République qui terminera son mandat. Qui le terminera parce que c'est un président démocrate, c'est un président qui n'a pas répondu aux provocations du PAIGC durant tout son mandat. Le PAIGC n'étant pas au pouvoir, a tout fait pour que rien ne se fasse en Guinée-Bissau, au niveau des institutions comme au niveau du gouvernement. Ça, c'est même, je dirais, un crime. Parce que par le seul fait que nous ne sommes pas Premier ministre, nous ne sommes pas au gouvernement, nous passons notre temps à tourner dans le monde entier pour bloquer les investissements, pour rendre la vie de la population les plus démunies catastrophique.
On a bien compris, Marcelina Montero, que pour vous, c'était le PSGC actuel et son dirigeant qui était responsable de la crise en Guinée-Bissau. Restez à l'écoute, il nous reste quelques minutes et quelques auditeurs ont appelé quand on a évoqué la question peut-être du trafic de drogue. C'est notamment Gabriel. Gabriel, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Gabriel.
Je tiens à vous remercier, Madame Ackman. Je disais hors antenne que vous nous avez donné, et surtout moi, l'envie et surtout la fierté de prendre à écouter la radio africaine, surtout Africa numéro 1. Ici, quelques années, c'était une radio musicale. Aujourd'hui, il y a plus aucune raison qu'on écoute d'autres radios que celle-là, parce que vous êtes des anges, voilà. Vous nous redonnez le goût de reprendre le fil de l'histoire. Et ça, continuer comme ça.
Ben, ça nous fait du bien ce que vous nous dites, voilà. Gabriel. Oui. Un petit mot sur la Guinée-Bissau, puisqu'on arrive à la fin de l'émission.
Oui, la Guinée-Bissau. Vous avez raison de souligner que ce pays était considéré comme narcotrafiquant. Et c'était la période du régime militaire. C'était un coup d'État. Et il se servait, c'est vrai, de la Guinée comme une base. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il faudrait voir ce pays, ce petit pays qui historiquement, je suis Manjac. Cette dame qui vous parle doit savoir quelle est la communauté Manjac, parce que au Sénégal je suis Goumis, en Guinée je suis, voilà, les Manjac constituent une forte communauté qui ne s'implique pas dans la vie politique guinéenne pour d'autres raisons. On en parle là, mais je suis.
Dites-nous pourquoi rapidement, Gabriel, pourquoi les Manjac s'impliquent pas?
Ben, les Manjac ne s'impliquent pas parce que nous sommes partis pendant la guerre de libération, nous sommes partis s'installer au Sénégal,
ouais,
et du coup pour y repartir, parce que nous sommes une communauté très pacifique, nous n'aimons pas la violence, voilà. Et pour repartir, on attend toujours que les choses se stabilisent, sauf que il faut s'impliquer économiquement, nos investissements sont bloqués au Sénégal, etc. Et tant que cette communauté ne s'implique pas dans le processus de démocratisation, il y aura toujours un déséquilibre. Voilà. Et ça, il va falloir que cette dame travaille davantage, parce que quand elle parle de la diaspora, je suis en France, ça fait 30 ans, je la connais pas. Parce que quand elle vient, elle fait des petites réunions en groupe, et les Manjac, elle ne côtoie pas les Manjac. Pourquoi?
C'est intéressant, oui.
Voilà. Et parce que, les Manjac pensent qu'ils sont Sénégalais. Moi, je suis Sénégalais quand je suis au Sénégal.
On a bien compris, Gabriel.
Et donc, il va falloir qu'elle fasse plus de travail pour la diaspora, y compris la diaspora Manjac. C'est très important.
Merci beaucoup, Gabriel, de votre appel. N'hésitez pas à appeler plus souvent. Et merci beaucoup de votre écoute d'Africa numéro 1. On n'a pas le temps de prendre Séné qui nous dit, je veux dire que le pays est indépendant depuis 1974. Et depuis ça, le pays n'avance pas, que Séné reste en ligne. On va peut-être l'inscrire pour la libre antenne de vendredi. Marcelina Montero, un dernier mot. Vous avez entendu Gabriel sur la diaspora Manjac,
oui,
qui se sent un peu délaissée.
Je dis merci à Monsieur Gabriel d'avoir relevé le fait qu'effectivement la Guinée-Bissau n'est plus la Guinée-Bissau de 2013, un narco-État. Elle a tourné la page de cela. C'est tout à son honneur et à l'honneur de la Guinée-Bissau. Mais quand il dit qu'il ne me connaît pas, j'ai fait toute ma vie à Mont-Saint-Joli, au milieu des Manjac, justement.
D'accord.
J'ai été votée majoritairement à Mantes, à Évreux et à Paris par les Manjac. Peut-être que lui, il ne sait pas qui je suis, mais j'ai gagné à Paris.
Vous connaissez. Merci de la précision, Marcelina Montero. On arrive à la fin de l'émission. On vous souhaite bonne chance. Je rappelle que vous êtes tête de liste pour l'Europe du PRS, parti pour la rénovation sociale. On aura des résultats d'ici demain, normalement. J'espère que vous viendrez les commenter sur cette antenne, chère Marcelina Montero. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat, poser vos questions sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs. On se retrouve demain, mercredi, pour une nouvelle édition du JDA. Nous parlerons bien sûr de la situation en Algérie. N'hésitez pas à vous inscrire en laissant un message sur le répondeur au 01 55 07 58 05. Restez à l'écoute des programmes d'Africa, la seule radio africaine. À demain.